C'est du direct live, c'est comme ça que ça s'appelle sur Graphite. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis désolé, mais je vais vous expliquer ce qui se passe dans ce studio. Il y a tellement eu de personnes féminines, notamment pour l'animation de VibraSOS juste avant Biotine. C'était formidable, une superbe ambiance dans cette émission. Bravo les filles, vous continuez bien sûr. Et puis on ne peut pas continuer donc du coup de prendre l'antenne sur Graphite sans continuer d'avoir une petite présence féminine. Et les présences féminines aujourd'hui, c'est Carole qui est avec moi sur l'antenne de Graphite. Salut Carole.
Bonjour Jean-Noël.
Comment vas-tu ?
Très bien et toi ?
Mais très bien, je te sens, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas.
En fait, j'essaye de régler.
Oui, règle ton micro, règle la taille aussi de ton fauteuil et tout. Carole, tu es quelqu'un qui m'a toujours étonné et encore aujourd'hui parce que nous sommes à la radio, tu t'es maquillée, tu as mis des petits talons hauts. Je trouve ça formidable. Pour moi, c'est très gentil, mais tu sais qu'on fait de la radio et pour l'instant, je ne maîtrise absolument pas la webcam de Graphite qui existe, qui est juste devant toi, n'aie pas peur, je ne l'ai pas allumé. Bienvenue à tous sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez donc Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Et je vous avoue que quand j'ai pris l'antenne là il y a 2 minutes, j'étais un petit peu paniqué parce qu'il y a tout un nouveau dispositif dans ce studio et je crois que j'ai pas appuyé sur les bons boutons. C'est pas grave, on est en direct, live, comme on le dit, c'est important. Et vous avez bien sûr la possibilité de réagir si vous le souhaitez au 06 95 065 026. Si vous êtes des fidèles de cette émission, vous savez que l'on parle de l'actualité scientifique tous les samedis pendant une petite heure comme ça. On essaye un petit peu de feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique pour essayer de comprendre un petit peu notre monde, qu'est-ce qui se passe dans les différents laboratoires du monde entier, aussi bien sur Terre qu'également dans l'espace, parce qu'on va parler de l'espace aujourd'hui. Et il y a eu pas mal d'actualités sur la Lune également ces derniers jours. Et on va un petit peu parler de médecine, un petit peu d'animaux, on va parler des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, comme Carole est présente aujourd'hui sur l'antenne de Graphite, quelques petites informations que j'avais glanées ça et là et que j'attendais en fait ta présence dans ce studio pour pouvoir évoquer ces petites actualités.
Je n'en doute pas.
Alors, nous sommes donc aujourd'hui le 2 février 2019. Ça y est, c'est le mois de février. Je n'ai pas vu passer le mois de janvier. Et on se dit qu'on est déjà en février. Le 2 février 1955, c'était l'inauguration du cosmodrome de Baïkonour. Déjà en 55, ça date. Et l'année dernière, c'était le premier lancement réussi d'un lanceur japonais, le plus petit au monde. Il s'appelle le SS-525. Aujourd'hui, il y a parfois des journées internationales et d'autres non. Aujourd'hui, il y a une journée mondiale des zones humides. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, elle commémore depuis chaque année, depuis 1997, la signature de la Convention sur les zones humides dans la ville aérienne, iranienne, de Ramsar. Hein, c'est au bord de la mer Caspienne. Et donc voilà, la journée mondiale des zones humides. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Toujours dans l'éphéméride de ce 2 janvier, la naissance de Jacques-Philippe-Marie Binet, qui est né le 2 février 1786. C'est un mathématicien et astronome français. Alors, ses travaux sur les mathématiques pures, la mécanique, l'astronomie, elles paraissent dans le journal de l'école polytechnique, mais également dans les comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. On lui doit des mémoires vraiment importants, notamment sur les fonctions eulériennes. Oui, tu me feras un petit résumé de cela, oui, s'il te plaît, Carole, parce que les fonctions eulériennes ont vraiment une importance en mathématiques, mais alors impossible à décrire et expliquer aujourd'hui à la radio. Et également dans le domaine de l'astronomie, il a institué des formules de cinématique qui donnent l'expression en coordonnées polaires de la vitesse et de l'accélération des corps soumis à une accélération centrale, comme par exemple les planètes du système solaire. Il est donc né un 2 février 1786. Décès aujourd'hui en commémoration, le décès le 2 février 1907 de Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. Mon Dieu, Mendeleïev, si vous êtes fidèle de cette émission depuis le début de l'année, vous savez que c'est l'année internationale du tableau périodique des éléments chimiques de Mendeleïev. Eh bien, aujourd'hui, on commémore le décès de Mendeleïev le 2 février 1907. Il a donc été connu principalement pour son travail sur cette classification périodique des éléments. C'est une citation de lui, par exemple, il dit « Ce matériau est trop précieux pour être brûlé. Quand nous brûlons du pétrole, nous brûlons de l'argent. Il faut l'utiliser comme matière première de la synthèse chimique. » Quand il parlait du pétrole au tsar Alexandre III en 1882, on parlait déjà de brûler du pétrole à cette époque-là. Et à l'occasion, justement, de la réalisation, de la conception de ce tableau périodique des éléments, eh bien, l'UNESCO s'est dit « Mais mon Dieu, en 2019, nous allons commémorer ce tableau périodique des éléments. » Et donc, depuis le début du mois de janvier sur l'antenne de Graphite, toutes les semaines, dans cette émission Biotine, nous nous arrêtons sur un élément particulier. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai eu envie de parler du silicium. Le silicium, qui est l'élément le plus abondant de la croûte terrestre après l'oxygène, c'est le principal élément de l'argile, du granit, du quartz, du sable. C'est un élément chimique qui présente de nombreuses utilisations, notamment dans les verres, les ciments et les céramiques, les silicones. Et oui, c'est mieux. Oui, je sais, parce que okay. C'était, le bouton était à fond.
Mais tout à l'heure, en fait, je t'entendais très très bien.
Oui, mais on n'entend que moi et c'est normal. Je veux dire, excuse-moi, c'est moi qui maîtrise encore les boutons.
Si tu Non.
Oui, tu as raison. Mais donc voilà, le silicium fait partie du tableau périodique des éléments. Son numéro atomique est le 14. Vous le notez bien, il y aura un contrôle écrit à la fin de cette émission. Son symbole, bon, ce n'est pas trop foulé, SI pour le silicium. C'est l'éphéméride, pardon, et également ce petit tableau périodique des éléments que nous feuilletons semaine après semaine dans cette émission Biotine. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, à la fois sur la bande FM 94.9 et sûrement vous êtes nombreux aujourd'hui à nous écouter sur internet graphite.net, aussi bien en direct qu'en différé, et vous avez donc la possibilité de réagir au 06 95 065 026 par SMS. N'hésitez pas à nous envoyer vos SMS au 06 95 065 026. Émission en direct samedi et rediffusée le mardi matin, parce que j'ai quelques messages me disant, on écoute l'émission le mardi matin à 10h et tu nous parles du samedi midi, mais oui, c'est une rediffusion, donc si vous êtes en train de nous écouter mardi matin, je vous souhaite un bon réveil. Carole, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, on va tout de suite embrayer, d'après cette petite révision donc, en chimie, hein, sur l'espace, et moi je voulais faire un petit point justement sur l'actualité à ce niveau-là, en commençant par des nouvelles de notre astronaute préféré, Thomas Pesquet.
Alors Thomas Pesquet, il faut à tout prix qu'on l'invite.
Ah bah oui.
Non mais c'est vrai, non, mais il a tellement de choses à nous dire.
En 2019, invité VIP.
Écoute, on se lance ce défi, on essaye d'avoir Thomas Pesquet, peut-être pas nécessairement dans ce studio,
en ligne.
Ouais. On essaye, allez. Parti, c'est notre défi cette année.
Alors justement, il va avoir un agenda chargé sûrement là, dans les mois qui viennent, puisqu'on annonce, enfin c'est surtout en fait Frédérique Vidal, hein, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui a annoncé que Thomas Pesquet devrait retourner très bientôt dans la station spatiale internationale, qui a donc fait ses heures de gloire. Hein. En fait, c'est le directeur général de l'Agence spatiale européenne, Yann Warner, qui a visiblement proposé à Thomas Pesquet de retourner très bientôt dans l'espace pour un vol dont la date devrait bientôt être fixée avec donc, les partenaires internationaux. Alors en fait, Thomas Pesquet, il serait susceptible de partir dès la fin 2020 ou le début 2021, sous réserve de l'accord de la NASA et du déroulement du planning des missions de l'ISS. On rappelle, hein, que Thomas Pesquet, c'est le Benjamin du corps européen des astronautes. Il a seulement 41 ans, justement. Ce mois-ci, c'est son anniversaire. Et il a volé, donc, on le sait, pour la première fois dans la Station spatiale internationale pendant près de 200 jours, du 20 novembre 2016 au 2 juin 2017. Donc il va sûrement devoir reprendre rapidement ses entraînements. Normalement, l'astronaute italien Luca Parmitano doit voler avant lui. Lui, c'est prévu pour juillet 2019. Donc Thomas Pesquet, c'est le 10e Français à être allé dans l'espace. Le dernier avant lui, c'était Léopold Eyartz pour un vol de seulement 48 jours en 2008. On le sait, il a démontré justement lors de son précédent séjour au sein de l'ISS ses talents pour communiquer, partager son expérience en postant notamment de nombreuses photos sur les réseaux sociaux. Donc il a quand même maintenant acquis une certaine notoriété et on espère en tout cas très vite pouvoir vivre de nouvelles aventures avec lui.
Bien sûr, mais il a un agenda chargé et maintenant il sait qu'un samedi entre midi et deux en 2019, à un moment il répondra à nos questions.
Ce serait génial. on va le contacter rapidement. Au niveau donc mondial, cette fois-ci, un agenda sur voilà, qu'est-ce qui nous attend dans l'espace en février, quelle est l'actualité, hein, et bien, pas mal de choses en fait, puisque le 19 février déjà, on va commencer avec le déploiement de la constellation OneWeb. De quoi s'agit-il en fait ? C'est une fusée Soyouz qui s'élancera du centre spatial guyanais pour mettre en orbite à 1200 km d'altitude les 6 premiers satellites de la constellation OneWeb. En fait, c'est la concrétisation d'un projet qui a été lancé en 2015 par l'entrepreneur américain Greg Wheeler et qui a donc pour objectif de connecter en fait à Internet des régions jusque des régions les vraiment les plus reculées dans le monde d'ici à 2027. Donc la commande en fait elle est constituée de 600 à 900 petits satellites. Ça a nécessité donc forcément une grosse production en série. C'était vraiment une première. Et les 6 premiers qui vont être lancés, ils devraient permettre notamment de connecter les écoles en Équateur, Alaska, Rwanda, Népal, Kyrgyzstan et au Honduras. Ça, c'est ce qu'a donc tweeté Greg Wheeler le 29 janvier dernier. L'objectif, ce serait de connecter toutes les écoles d'ici à 2022. Voilà, donc si vous voulez suivre ce lancement, il est prévu à 22h37, heure de Paris, le 19 février. Le 19 février toujours, une deuxième actualité, puisque une fusée Falcon 9 de l'entreprise américaine SpaceX, on en parle souvent dans l'émission hein, de SpaceX, doit lancer le premier atterrisseur lunaire israélien. Il a été nommé Bereshit après un vote du public israélien. Ne me demandez pas la traduction. Il pèse donc 150 kilos à vide, environ 600 kilos avec son carburant. On voit quand même la différence. Et il a été mis au point par la start-up israélienne Space Hill, qui était donc l'une des équipes finalistes du concours Google Lunar X Prize. Ça a également été mis au point par les Israel Aerospace Industries.
J'aime bien quand tu parles anglais. Je trouve ça sensuel.
Ne te moque pas. Et ce sera donc le quatrième pays, après la Russie, les États-Unis et la Chine, à faire atterrir un vaisseau spatial sur la Lune, puisque oui, c'est finalement la première mission israélienne sur la Lune. Le lancement, pareil, si vous voulez suivre, il est prévu à 3h du matin, le 19 février, donc 3h du matin, heure de Paris. Un peu plus tard, en février, ça enchaîne, hein, l'agenda est chargé.
Le mois de février est un mois vraiment complet finalement.
C'est ça. Alors là, on va reparler de SpaceX, puisque donc toujours SpaceX, fondé par notre très cher Elon Musk, devrait lancer donc depuis le centre spatial Kennedy en Floride un vol test de sa capsule pour vol habité Crew Dragon, soit 8 ans après la mise à la retraite hein, de la dernière des navettes spatiales américaines. Donc en fait, cette étape-là, finalement, ça permettrait un retour des vols habités pour les Américains. Donc, on a la NASA qui, en fait, a mandaté des entreprises privées, donc notamment SpaceX, Boeing, pour prendre le relais hein, depuis justement ces histoires d'anciennes navettes spatiales américaines et pour se consacrer finalement au retour sur la Lune. On est toujours en train de parler de la Lune quelque part, même s'il y a d'autres ambitions après vers Mars, etc. Donc, la desserte de l'ISS, elle est depuis assurée, on le rappelle, par des Soyouz russes. On sait qu'il y a eu des soucis avec ces Soyouz, hein, justement, notamment lors de la dernière tentative. Et également, il y a un problème en fait, de prix, puisque c'est un montant de plus de 80 millions de dollars par astronaute à chaque fois pour ouais. Un lancement via Soyouz. Donc, le contrat liant les Américains et les Russes, il faut savoir qu'il prend fin en novembre. Et donc, voilà, et eux, ils sont dans une problématique technique et politique aussi. Et là, SpaceX, qui lance déjà en fait des vaisseaux Dragons pour transporter du fret jusqu'à la station, eh bien, voilà, ils aimeraient que du coup, ils puissent bien certifier la version habitée de sa capsule qui pourra transporter jusqu'à 7 personnes. Donc, gros enjeu pour les Américains en fait avec ce lancement.
Je t'interromps juste que tu parles de Soyouz. Je rappelle que depuis septembre, on est dans cette grande partie de Cluedo géant pour savoir mais qui a fait un trou dans la carlingue du Soyouz sur la bord de la Station Spatiale Internationale. En fait, depuis quelques jours, voire quelques semaines, on n'en entend plus parler. Alors, il y a eu vraiment une commission d'enquête, mais on ne sait toujours pas si c'est le colonel Moutarde qui a percé avec son chandelier dans la carlingue ou si c'est... Alors, à l'époque, il y avait un Allemand, je crois, je vous dis de mémoire, 2 Américains et 3 Russes. Et on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais la commission d'enquête se poursuit. Mais voilà, c'est le lien avec Soyouz, parce qu'il y a un côté peut-être géopolitique derrière, à faire à suivre. J'aime bien, c'est du suspense.
À faire à suivre, peut-être qu'on aura la réponse en 2019.
Mais on aura la réponse fatalement, on ne peut pas attendre.
Eh oui, et donc une dernière actualité finalement qui enchaîne avec toutes ces histoires-là, c'est qu'on va reparler justement de l'ISS et on se souvient, on en avait parlé l'année dernière, de ce problème de ralliement justement à la station, et je viens de l'évoquer juste avant, puisqu'on y a eu ce vol avorté avec beaucoup d'angoisse hein, justement pour les deux astronautes à bord. Donc un nouvel équipage doit s'envoler depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour rejoindre justement la station spatiale internationale le 28 février. Donc dans vraiment très peu de temps. Et il sera composé des astronautes américains Nick Hag, Christina Amok-Kor et du russe Alexei Ovrinin. Donc c'est le deuxième vol pour Nick Hag et le troisième pour Alexei Ovrinin qui avaient été contraints justement d'avorter leur précédente mission vers l'ISS en octobre. C'est pour ça qu'on en avait parlé en fin d'année dernière. Ils doivent théoriquement passer 6 mois en orbite dans l'ISS. On espère que cette fois-ci, ça fonctionnera. En tout cas, je me dis quelque part, même s'ils sont surentraînés, que ça doit quand même faire quelque chose, vu ce qui s'est passé la dernière fois, de repartir. Il doit y avoir quand même une certaine appréhension quelque part, même si tout s'est bien terminé. Hein, mais...
C'est pas juste un transport en RER, fatalement. Là, tu dois avoir... psychologiquement, il faut être fort, en fait, aussi. Oui. Pas n'importe qui. Physiologiquement, il faut tenir le coup. Moi, déjà, je sais qu'à ce stade-là, je ne passerai pas. Mais après, psychologiquement, il faut quand même tenir le coup également, parce que c'est quand même pas simple. Comme tu es dans l'espace, on va continuer à rester dans l'espace. Début janvier, on avait évoqué, et ça avait fait beaucoup parler, bien sûr, du fait que les Chinois avaient atterri sur la face cachée de la Lune.
Tout à fait.
Et on en a beaucoup parlé, et je trouve qu'après, on n'a pas parlé de la suite de cette aventure scientifique et technique, parce que j'ai un peu l'impression qu'on a caché le fait qu'on a réussi à faire pousser des plantes sur la Lune depuis. Il y a quelques articles qui l'évoquent, mais d'une façon générale dans les médias, on ne s'intéresse pas trop à ce qui se passe sur la Lune, mais plutôt sur les ronds-points en ce moment. Donc évidemment, l'actualité occulte l'autre. Mais en tout cas, pendant quelques jours, il y a de la vie qui s'est développée sur la Lune. C'est quand même intéressant. Alors, en particulier, c'est une graine de coton qui a germé à bord donc, de cette mission Change 4 ou Change 4. Je ne sais pas s'il faut peut-être le dire en anglais comme toi, Change 4.
Mais, oui, réessaye l'accent.
Je vais essayer le Change 4. Il y a une graine de coton qui... Bon, alors, malheureusement, il y a l'une des graines de coton qui a germé sur la Lune qui a, à l'intérieur donc, de cette mini-biosphère, n'a pas survécu au froid. Tu m'étonnes. Parce que la température peut descendre jusqu'à moins 170 degrés Celsius. Donc tu m'étonnes qu'elle a pu germer au départ, mais alors après ça a été du coton givré. Mais en tout cas, ça a germé quand même. C'est une expérimentation assez intéressante. Il y a eu également des levures, il y a eu des œufs de mouche qui ont été placés à l'intérieur aussi de cette petite boîte d'aluminium qu'on a posée sur la face cachée de la Lune. Alors tout ça va être condamné bien évidemment. L'expérience est d'ores et déjà terminée. Ça y est, c'est fini, c'est ce qu'a déclaré l'agence spatiale chinoise. Les organismes vont progressivement se décomposer dans ce petit conteneur totalement hermétique et qui ne vont donc pas affecter l'environnement lunaire. Tu m'étonnes si on commence déjà à polluer la Lune. Donc non, tout est prévu. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que c'était intéressant de savoir qu'il y avait des plantes qui avaient poussé sur la Lune. Et alors, une plante qui avait poussé un tout petit peu sur la Lune, ok, mais on reste quand même sur un stade assez intéressant et ça se développe pas mal au niveau de la Lune. La Lune, c'est moderne, c'est ce qu'il faut se dire. À un moment, on s'était dit la Lune, et bien ça revient.
On parlait que de Mars, et là, visiblement, ça revient beaucoup dans l'actualité.
Et ça revient beaucoup dans l'actualité, et notamment avec la Chine. La Chine qui poursuit, elle, ses ambitions spatiales pour la Lune. On en avait parlé dans cette émission au tout début et ça avait fait vraiment, au début plus d'une dizaine d'années, il y avait déjà l'annonce du programme lunaire de la Chine, ça date déjà de 2003, et le coup d'envoi avait été donné en 2007 avec le lancement de la première sonde, donc la Change 1. L'intérêt de la Lune pour la Chine n'est pas prêt de s'arrêter. Il y a ses ambitions futures qui vont bien au-delà de la face cachée sur laquelle elle vient donc d'atterrir avec cette mission Change 4, parce que, comme l'ont confirmé les responsables politique et spatiaux chinois, l'objectif final de la Lune, c'est de s'y installer de façon pérenne dans des bases construites en dur. Alors si la Chine veut s'installer durablement sur la Lune, c'est bien sûr pas pour faire du tourisme ou également pour faire un petit peu de science basique. Non, parce que ses objectifs affichés, c'est bien sûr l'exploitation des ressources minérales et de la glace d'eau, bien évidemment, pour produire les consommables dont auront besoin les futures expéditions humaines à destination de Mars, comme tu l'as dit. Et donc, d'ici l'organisation des premières expéditions chinoises sur la surface de la Lune, qui sont prévues à l'horizon 2030. Faut pas se leurrer, c'est demain 2030, en fait. C'est assez
dans
intéressant.
Dans les 10 ans.
Oui, effectivement, Carole, je ne peux te contredire, c'est effectivement dans 10 ans. Et donc, à une époque où les Américains devraient débarquer sur Mars, eh bien, la Chine devra acquérir et maîtriser de nouvelles technologies qui émergent aujourd'hui. Alors, il y a deux de ces technologies, l'impression 3D, déjà pour la construction d'infrastructures en dur, et la mise au point d'unités spéciales pour exploiter et utiliser des ressources lunaires, qui sont donc des objectifs de la mission future, qui sera donc Change 5, bien sûr. Et voilà, il y a l'idée de l'exploitation des ressources. Alors, mais à qui ça appartient? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on considère que c'est le premier qui arrive, qui récupère là où il atterrit, enfin, même pas atterrit, l'alunissage, on parle bien sûr. Est-ce que c'est lui le premier qui arrive, qui récupère les ressources? Je n'en sais rien. Quelque part, on n'a pas nécessairement encore rédigé le code civil du système solaire. Mais en tout cas, voilà, c'est des vraies ambitions qui sont affirmée par la Chine, qui revient en force sur la Lune et qui a vraiment une véritable ambition intéressante d'un point de vue technologique, bien sûr, mais eh bien, la géopolitique va maintenant toucher les frontières spatiales et quelque part, il y a une certaine concurrence et course qui va se mettre en place et la décennie qui arrive, elle va être fascinante, ça va être extraordinaire et on espère bien sûr vous faire partager cela sur l'antenne de Graphite. On se fait une petite pause musicale, Carole.
Avec plaisir.
Si vous souhaitez réagir sur l'actualité en direct et dire que la voix de Carole est aussi parfaite que celle qu'ont animée VibroSize juste avant, 06 95 065 026 par SMS, n'hésitez pas. Alors comme vous avez compris qu'aujourd'hui je ne maîtrisais pas tout d'un point de vue technique, j'ose espérer que nous allons pouvoir écouter tout de suite Hand Bricks sur l'antenne de Graphite. Ça devrait être.
Il est 12h26 sur Graphite 94.9 FM.
Et ça déménage Unbreaks. On ne s'attendait pas du tout, en fait.
Oui, non. La surprise musicale.
Je t'avoue qu'au départ, je me suis dit, j'ai encore appuyé sur un mauvais bouton. Mais après, ça y est, c'est parti et le rythme est venu. Ça nous a bien réveillés dans ce studio. 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir, bien sûr, en direct sur l'émission que vous êtes en train d'écouter, à savoir Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h. Bien sûr, sur l'antenne de Graphite, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Pardon. Et 94.9 sur la bande FM pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, samedi ou mardi matin lors de la rediffusion. De quoi vas-tu nous parler, Carole ?
D'animaux. Bien de l'actualité et bien sûr de mon sujet préféré, les animaux.
Les animaux.
Et oui, et là, c'est une actualité très récente puisque ça a été publié donc, notamment par l'AFP et Sciences et Avenir hier. En fait, un léopard errant s'est attaqué à plusieurs personnes. Ça s'est passé en Inde. Hein, et ce qui est très étonnant, en fait, c'est la réaction justement des gens qui ne pouvaient s'empêcher de l'approcher. Et on imagine bien sûr que ça ne s'est pas très bien passé. Donc en fait, ce léopard, hein, je rappelle le nom latin, Panthera pardus, autant qu'on apprenne un petit peu en même temps, on révise un petit peu ses classiques, eh bien, il a semé la panique en fait 6 heures durant à Jalandhar, une ville du Punjab dans le nord de l'Inde. Alors, il était visiblement très nerveux et sûrement terrifié, on l'imagine, et il a du coup, au cours de son errance, mordu et traîné au sol plusieurs habitants. Alors, l'histoire se termine bien puisqu'à la fin, on l'a endormi et capturé. Bon, ce qu'il est advenu après de cet animal, on ne sait pas. Maintenant, la capture, elle s'est révélée très très compliquée à cause de la curiosité de la foule, puisque justement... L'animal qui s'en est pris au moins à 4 personnes. Heureusement, hein, aucune n'a été grièvement blessée.
Oh, mais non, mais Carole, tu... Mais non, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe en radio. Il faut laisser monter le suspense et on se dit, mais il y a peut-être des morts.
Non, ben non, pas de morts. Enfin, bon, ni grièvement blessés, mais quand même des blessés. Que faisaient ces gens, en fait ? Parce qu'imagine, on croise un léopard dans la rue. Quelle serait ta réaction ?
Je crois que sur l'instant, tu es un peu stupéfait, en fait, parce que tu te dis, mais où suis-je ? Qu'est-ce qui se passe ?
Est-ce que je rêve ?
Oui, c'est ça.
Est-ce que ma soirée d'hier...
Prends pas ton cas pour une généralité, s'il te plaît.
Mais non, en réalité, donc la plupart... Il faut imaginer, on est en Inde, il y a beaucoup de monde. Et en fait, la plupart des gens étaient venus assister au spectacle des tentatives désespérées du léopard pour s'échapper de la ville, une ville quand même de 800 000 habitants. Alors évidemment, les gens ont pris des vidéos qui sont devenues virales et qui montrent le félin arpentant les rues, sautant par-dessus les murs, pénétrant dans des jardins et s'attaquant à des résidents sous l'œil de la foule. On le voit également faire tomber d'une échelle un homme qui tentait de lancer un filet pour l'attraper. Et selon certaines informations de la presse, des spectateurs auraient même lancé des pierres justement à ce léopard pour l'inciter à s'enfuir vers les champs alentours. Ça n'a pas fonctionné. Il a fini en fait par être acculé dans une maison où il a été endormi grâce à un fusil hypodermique. Selon les responsables de la protection de la nature du Punjab, le léopard venait des collines de l'Himachal Pradesh, un état voisin, et est arrivé en fait jusqu'à Jalandhar à travers des forêts et des champs. Alors les badauds qui tentaient de l'apercevoir, eh bien, ils ont compliqué sa capture et la police a dû bloquer certaines rues pour les contenir. L'animal endormi, bon, a été placé dans une cage. Ah si, finalement, on a quand même peut-être l'issue de l'histoire. Il aurait été emmené au zoo de Chadbir. Toujours au Punjab. Bon. Ensuite, va-t-il pouvoir se... Ça reste un animal sauvage. Va-t-il pouvoir s'adapter aux conditions de captivité ?
C'est un peu violent, hein.
Voilà. Pour l'instant, en tout cas, apparemment, son sort n'est pas tranché et il est en observation dans ce zoo. Ce que ça met en lumière, et moi c'est ça que je voulais aborder en fait au travers de cette actualité qui peut prêter à sourire, et si vous cherchez, vous trouverez sûrement les fameuses vidéos du coup sur internet, c'est qu'en fait les léopards ont leur habitat qui se voit vraiment grignoté par les activités humaines. Évidemment, c'est pas le cas seulement de ces animaux, mais j'aimerais rappeler justement que ce sont des animaux qui sont dits vulnérables selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et la menace principale qui pèse sur ce félin, eh bien, c'est l'homme, c'est nous. Hein, puisque la conversion d'habitats forestiers et de savanes en zone agricole, en zone d'élevage ou urbaine, eh bien, a significativement réduit l'aire de répartition des léopards. Les éleveurs peuvent tuer ces animaux s'ils sentent que le bétail est menacé. Ils ont l'autorisation. Et à cause justement de cette destruction de son habitat, mais également du braconnage, je rappelle que certaines parties de leur corps sont utilisées dans la médecine traditionnelle ou pour des cérémonies. Cette espèce voit sa population fortement diminuer.
Merci d'avoir plombé l'ambiance, Carole. Vous écoutez Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne Graphite. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réagir au 06 95 065 026 comme ce message qui nous compare, ma chère Carole, avec Michel Chevalet, apparemment c'est moi, et toi c'est Denise Fabre, je ne sais pas pourquoi.
C'est plutôt un compliment.
Mais oui, enfin bon, elle était speakerine en fait, quelque part, donc tu peux être comparée à une speakerine, ça t'intéresse ?
Non, mais à son époque, pour mettre dans le contexte ce qu'elle a fait, c'était déjà une grande avancée pour la condition des femmes.
Je ne peux pas réagir et rebondir là-dessus. J'ai envie de vous envoyer à Las Vegas, pas pour se marier, non, ne prends pas tes désirs pour des réalités, Carole, mais bien sûr de faire un point sur le CES, le Consumer Electronics Show. Tous les ans, c'est le salon de l'électronique et on découvre tous les ans des choses totalement farfelu et superflu, mais ça permet de voir plus que des prototypes, peut-être des objets qui seront nos amis du quotidien dans un futur assez proche, et notamment ce premier smartphone pliable qui a été présenté par cette marque chinoise venue de nulle part. Elle s'appelle Royole et elle a donc coupé l'herbe sous le pied de Samsung et des autres, de LG, de Huawei et ainsi de suite, avec ce smartphone doté donc d'un écran pliable qui a été présenté donc à l'occasion de ce salon de l'électronique à Las Vegas. Alors, ce que l'on savait déjà, c'est que déplié, en fait, le mobile est doté d'un écran avec une diagonale assez vaste de 7,8 pouces. Ça fait quand même quelque part une petite tablette quand c'est déplié. Et quand c'est replié, eh bien, il y a deux écrans de presque 4 pouces qui sont proposés. Alors,
Fait deux téléphones ?
Non, mais bien sûr que non. Ça fait deux écrans.
Oui, mais ça sert à quoi, deux écrans ?
Eh bien, je n'en sais rien. Et tu poses trop de questions. Ce qui peut être intéressant, quelque part, c'est que quand tu es face à quelqu'un, chacun a son écran et on peut peut-être jouer sur un jeu en direct et chacun avec son écran. J'en sais rien, je leur donne des idées. Il faudrait peut-être que je dépose ça
peut-être
à l'IFRI parce que je vais me faire piquer mes idées. Mais si on n'utilise qu'un seul écran sur les deux, le deuxième est mis en veilleuse. Par souci d'économie, bien sûr. C'est quand même la règle maintenant et c'est très bien. Il faut noter que cet écran se plie par l'extérieur, contrairement à Samsung qui, lui, a prévu pour son futur Galaxy de le replier à l'intérieur pour le protéger. L'annonce est par l'extérieur et, selon le constructeur, il pourrait être plié 200 000 fois avant d'être endommagé. Bon, affaire à suivre, ça dépend qui l'utilise, bien sûr, parce qu'il faut être sûrement assez précautionneux pour gérer ça. Mais en tout cas, pardon, décidément, je vais avoir un petit chat qui va me suivre pendant toute cette émission. C'est assez intéressant parce que, si vous suivez cette émission il y a quelques années, les écrans pliables, on en a parlé, je crois, il y a 2-3 ans à peu près, c'était à l'état de prototype, c'était totalement encore assez de la science-fiction, comme on pouvait le dire, et maintenant, ça y est, ça a été présenté, et c'est du concret. Alors, bon, c'est tout nouveau, donc évidemment, il y a le prix qui va avec, il faut à peu près compter 1 250 € pour avoir ton téléphone pliable. Paille, c'est rien. Quoi.
Oh, maintenant, avec les derniers iPhones.
Oui, c'est vrai que quelque part, finalement,
c'est pas cher, hein.
Le premier prix, c'est 1 250 €. Pourquoi pas ? C'est déjà disponible en Chine, il faut le savoir. Et pour le reste du monde, c'est pas encore connu en termes de date de commercialisation, mais ça ne devrait tarder. Mais voilà, ça a été présenté, ce premier smartphone pliable. En parallèle, LG, l'entreprise sud-coréenne, a présenté, lui, son écran de téléviseur enroulable, donc ça aussi, maintenant tu vas pouvoir enrouler ta télévision. Et il y a une montre connectée qui a été également présentée, une montre connectée qui se recharge grâce au soleil et grâce à la chaleur du corps. Et ça, c'est aussi ingénieux, parce qu'il y a toute cette perte d'énergie qu'on n'utilise pas et un véritable gaspillage. Et donc, il y a eu cette judicieuse idée de pouvoir construire ce prototype de montre connectée qui peut se recharger grâce à la chaleur du corps et également grâce au soleil. Alors bon, le soleil, c'est déjà moins simple, à mon avis, parce qu'il faut rester au soleil planté pendant 2 heures.
À Paris, depuis janvier, je pense que ça ne fonctionne pas.
Exactement. Et donc, du coup, tu utilises le deuxième moyen pour avoir un petit peu d'énergie, pour remonter, recharger cette montre connectée. C'est avec donc la chaleur du corps. Et puis, évidemment, ça, c'est quand même des innovations techniques assez intéressantes, mais il y a quand même des choses assez farfelues qui ont été présentées. L'idée de pouvoir livrer des colis avec des robots chiens. C'est-à-dire qu'on met le colis sur le petit robot et il se déplace à quatre pattes comme un chien. Il est quand même intelligent, ce qui va même sonner à la porte du propriétaire, en fait. Alors,
Il est rapide parce que
Non, mais c'est une camionnette, en fait, qui dépose ça dans la rue et après, le petit chien sort de la camionnette et va... Voilà. Bon, ça fait moins rêver quand on connaît le fin mot de l'histoire. Je ne peux évidemment pas passer à côté de ce soutien-gorge qui mesure la poitrine parce que tu le sais sûrement mieux que moi. C'est toujours difficile d'avoir une méthode assez fiable pour connaître les mensurations précises d'un soutien-gorge.
Donc là, c'est en 3D, là.
Eh bien, voilà, ça va pouvoir être directement mis en place. Si ça va mesurer la poitrine, ça va être parfait, comme ça, vous serez très bien. Il y a une machine, un truc qui sert à rien, cette machine à karaoké porte-gobelet. Si tu veux chanter, tu poses ton gobelet de bière ou autre, hein, l'alcool est évidemment à consommer avec modération, et tu pourras chanter. Ça ne sert à rien. Si tu t'ennuies dans tes toilettes, tu as des toilettes interactives qui te parlent et qui te raconte plein d'histoires. Mais tu peux avoir une discussion. Oui, oui, oui. Mais tu peux écouter de la musique, tu peux régler la couleur de la lumière, tu peux même régler la température du siège. Ah. Et ça, c'est sympa. Ça coûte plus de 6000 euros quand même. Et voilà, il y a quelques idées un petit peu farfelues qui ont été présentées également, avec également cette bague qui transforme la couleur en son. C'est un petit xylophone assez, le xylophone 2.0 qui est proposé. On peut s'amuser à créer de la musique en tripotant des pêches et des bananes ou en triant ses t-shirts à motifs multicolores. Et chaque couleur repérée par la bague, en fait, va être associée à un son précis. Et donc, d'accord, du coup, en essayant de jouer avec différentes couleurs, tu vas pouvoir émettre différents sons et donc créer ta propre partition. Et ils ont fait ça sous forme de bague pour que ça soit assez pratique. Tu le mets au doigt et tu peux comme ça, avec ta main, te balader devant différentes surfaces colorées. Ça ne sert à rien.
Oui, mais ingénieux. On voit qu'il y a eu du temps de réflexion. Là.
Il y a eu du temps de réflexion et derrière, il y a quand même une technologie assez intéressante. Oui. Bien sûr, là, on voit des applications, enfin une bague avec une reconnaissance de couleur ou des toilettes connectées qui peuvent chauffer la température que tu te souhaites. Bon, ça reste assez anecdotique. Derrière, il y a une technologie qui avance et qui est assez formidable parce que c'est du concret. Il y a quelques années, on aurait dit c'est quoi cette histoire ? On n'aura jamais ça. Eh bien si, nous aurons bientôt nos toilettes connectées et nos bagues qui reconnaissent la couleur. Mais je sais bien, je t'offrirai ça. Ce qui est drôle dans l'article...
Pour la Saint-Valentin.
Et pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Ce qui est drôle, c'est dans l'article, ils te disent que c'est un peu plus de 6 000 euros, mais ça monte jusqu'à 8 000 euros pour la version noire. Je ne comprends pas du tout en quoi les toilettes noires coûteraient plus cher, en fait.
Et peut-être que le matériau, peut-être, je ne sais pas.
Ah, je n'en sais rien, on n'a pas de précision là-dessus.
Il faut savoir que, petite anecdote, pour des mixeurs, ça fonctionne. En fonction de la couleur, ils sont plus chers. Oui. Mixeurs noirs sont plus chers que les blancs.
Mais c'est peut-être
je ne sais pas pourquoi.
Je n'en sais rien. Je t'offrirai ta toilette connectée bientôt. Si tu es sage.
J'aimerais en noir, par contre.
Mais je sais que tu as des goûts de luxe, fatalement. 06 95 065 026 pour écouter Michel Chevalet et Denis Fabre. De quoi vas-tu nous parler maintenant?
C'est
moi qui parle.
Oui, en fait, moi deux. Si tu ne démarres pas, je ne pourrai pas enchaîner. Mais tous les deux, on va parler du froid.
Évidemment, j'avais pas prévu qu'on en parlait tout de suite. C'est vrai que c'est un petit peu de saison et tous les ans, il y a un peu ces marronniers dans la presse scientifique qui nous demandent toujours quel est l'endroit le plus froid sur Terre. Pour arriver à une conclusion fiable, il faut se baser bien sûr sur des relevés de température qui vont s'étaler sur plusieurs années. C'est pas uniquement anecdotique et à un moment précis. Et la NASA, en 2013, avait épluché plus de 30 ans de données satellitaires pour fournir une réponse. Alors, l'endroit le plus froid sur Terre se trouve à proximité de la crête d'une montagne de glace entre les monts Argus et Fuji, une zone plus connue sous le nom de plateau de l'Est de l'Antarctique, du côté du pôle sud de notre planète, donc bien sûr. Et à plus de 1000 km à l'intérieur du continent, là-bas, la température aurait, dans l'intervalle, atteint plusieurs fois les moins 92 degrés Celsius. Je ne sais même pas à quoi ça correspond, moins 92 degrés Celsius. Mais évidemment, personne ne peut le savoir, parce qu'il n'y a pas une âme qui vive là-bas, évidemment. Alors, pour trouver des lieux habités les plus froids de la Terre, il faut se déplacer vers le nord-est de la Sibérie, ce qui semble assez évident, bien sûr. et notamment la ville d'Oymyakon, qui est construite pendant la Seconde Guerre mondiale et qui semble être en bonne position pour décrocher le titre de zone habitée la plus froide du monde. Au mois de janvier, la température moyenne y est de moins 51 degrés, c'est quand même assez important. Et durant l'hiver 1923, on a même eu la température qui est descendue jusqu'à moins 71 degrés. Les gens y habitent.
Moins 71.
Mais en fait, je ne sais pas à quoi ça représente. Je ne sais pas quelle sensation on a, en fait.
On n'a plus aucune sensation, je pense.
Je ne sais pas. Enfin, déjà, quand il fait moins 10, on est gelé, enfin, dans le sens où on ressent vraiment le froid. Mais alors, à moins 51 de moyenne en janvier, dans cette ville, dans cette zone habitée, il y a des gens qui y vivent. Je ne sais pas comment ça se passe.
Après, ça m'évoque en fait un reportage justement qui, à mon avis, était dans ces coins-là. Il montrait qu'en fait, ils surchauffaient leurs habitations. Qu'évidemment, on est obligé de sortir avec un équipement quand même qui est impressionnant en termes d'isolation par rapport au froid. Et justement, ils ont régulièrement des décès. C'est-à-dire que dès que quelqu'un, en gros, oublie de mettre, enfin, enlève son gant, il se rend plus compte. Voilà, c'est la fin.
Mais il y a même les garages sont chauffés, en fait. Parce que les voitures, même les garages sont chauffés. Et on nous précise dans cet article que le régime alimentaire est extrêmement riche en viande pour se donner de la force. Et parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce qu'évidemment, la végétation pousse très très mal dans ces pays. Donc tu manges de la viande et tu bois peut-être un petit peu de vodka, je n'en sais rien. Ça, c'est sur Terre. Et en France, il fait froid aussi.
Et justement, oui, voilà, concentrons-nous un peu sur la France. Alors je lance les paris, justement, s'il y a des gens qui nous écoutent en direct. Vous pouvez donc nous envoyer un SMS au 06 95 065 026. Pour jouer et pour justement, peut-être avant que je le révèle, nous donner la ville, le nom de la ville la plus froide de France. Alors, comme ça d'emblée, Jean-Noël, justement, est-ce que toi tu aurais une idée comme ça ?
On serait tenté de dire une région montagneuse, spontanément. Mais après, en France, des régions montagneuses, il y en a pas mal.
Il y en a pas mal et il y a une ville en fait qui souvent, quand on regarde la météo régulièrement, revient.
Alors, il y a souvent Langres. Qui n'est pas du tout en zone montagneuse et qui répond absolument pas à ta question, parce que je sais que ce n'est pas du tout vers ça que tu veux aller, mais Langres, parce que c'est sur un plateau en Lorraine. Mais il y a d'autres régions qui sont plutôt, pas nécessairement dans les Alpes, en fait, parce qu'il ne fait pas nécessairement froid, enfin, il fait froid, bien sûr, mais relativement, par rapport à d'autres régions qui seraient plutôt vers l'est, dans le côté un petit peu Franche-Comté. Enfin, Franche-Comté, maintenant, s'appelle une autre région. Oui. Je ne sais plus, je crois que c'est Bourgogne-Franche-Comté, mais un petit peu dans ces régions-là, vers Pontarlier.
Oui, alors c'est vrai que là, je pense que c'est pareil, il fait quand même très très froid. La ville qu'on cite souvent et qu'on entend souvent, c'est Aurillac, qui n'est pas forcément d'ailleurs...
Ah, mais en Auvergne.
Oui, tout à fait. Qui n'est pas entouré de villes qui sont dans les plus froides de France, d'ailleurs.
Non, parce que Aurillac n'est pas entouré de villes. Aurillac n'a rien. Il n'y a qu'Aurillac.
Attention, le Limousin n'est pas très très loin, donc pas de... Dans l'arc des obligeantes.
Je ne me moque pas, mais c'est une région où il n'y a pas énormément de monde. À part Aurillac, il n'y a pas grand-chose.
En effet. Mais c'est vrai que du coup, c'est sa géographie particulière qui fait qu'on se rend compte souvent que les températures là-bas sont assez basses. Mais justement, ce n'est pas ça la réponse. Qu'est-ce qui est drôle ? Est-ce qu'il y a des gens déjà qui jouent ?
Il y a des gens qui jouent. En fait, ils parlent de la commune de Gennevilliers, je ne sais pas pourquoi, quand tu n'es pas là, en fait.
Ah oui.
Tu m'étonnes.
Merci.
Sinon, on nous dit Besançon, Metz. Oui, c'est vrai que c'est aussi des communes que...
Il y a de l'idée déjà au niveau de la localisation, au niveau
de
la France.
Donc c'est le nord-est, en clair.
On va être plutôt vers là. Alors, moi, je voulais quand même donner certaines précisions sur l'hiver en France, déjà, pour un petit peu qu'on se rende compte des températures. L'hiver 1955-1956, faisons un petit retour en arrière par exemple, il a fait descendre les thermomètres en dessous des moins 30 en de nombreux endroits. Et on imagine qu'en plus à cette époque-là, le chauffage il devait être un peu moins performant qu'aujourd'hui. Cette année-là, les fleuves en fait se sont mis à geler. Ce qui arrive quand même rarement.
En France, c'est assez rare.
Voilà. Au niveau des dates comme ça mémorables, on a aussi l'hiver 1962-1963, où là aussi, il y a eu d'énormes vagues de froid. On a également 1984-1985, où il y a eu des records, parmi lesquels, eh bien, celui justement de la ville la plus froide de France, c'est-à-dire Mout. Oui. M-O-U-T-H-E.
Mout. Ça existe,
oui. Où là, les thermomètres ont atteint les moins 41 degrés, quand même. Donc, c'est un village qui est dans le Jura. Et c'est lui qui est considéré. Voilà. Donc, on était quand même sur la bonne région, comme le plus froid de France. Puisqu'en fait, sur une période comprise entre 1961 et 2010, il a gelé au cours de l'hiver en moyenne un jour sur deux dans ce village. Ah, c'est énorme.
C'est violent. Hein.
C'est-à-dire que là, il faut avoir quelque chose pour gratter les vitres sur sa voiture qui soit performante.
Mais t'as pas de voiture, c'est pas possible. Ou tu la protèges, tu la laisses pas
dehors. T'as un garage chauffé, je sais pas.
C'est possible, j'en sais rien. À Mout.
On demandera aux habitants de Mout. Et en fait, 6 années sur 7, le village enregistre des températures minimales qui descendent sous les moins 20 degrés.
Oh là là.
Donc là-bas, il faut quand même être résistant au froid ou en tout cas avoir des bons équipements. Ce titre de village le plus froid de France, Mout, donc le doit à son climat qui est semi-continental. Bien sûr, on l'a dit, à sa situation géographique, puisque ce village est situé à 930 mètres d'altitude dans le fond de ce qu'on appelle une combe. Une combe un peu boisée, en fait c'est un val en forme de cuvette et les pentes douces, ce qui explique ça en fait, ce qui explique le froid, c'est que les pentes douces de cette combe, elles permettent justement à cet air froid de s'y accumuler de manière vraiment facile en l'absence de vent et donc il y reste. Alors évidemment, il y a quand même aussi du côté des grandes villes des concurrents et au niveau des grandes villes, eh bien c'est Grenoble cette fois-ci qui décroche la palme de ville la plus froide de France puisqu'en janvier 1971, il y a été enregistré une température de moins 27 degrés. Et sa moyenne des températures mensuelles les plus basses depuis 40 ans, eh bien, elle est inférieure à celle de Strasbourg et de Lyon. Alors apparemment, pas de beaucoup, ce qui fait qu'après, je pense que Strasbourg et Lyon sont à la suite dans le classement. Mais quand même, c'est Grenoble qui gagne. Dernière petite précision quand même sur Aurillac, on y revient. Eh bien, Aurillac est une ville qui est perchée à 600 mètres d'altitude, contre à peine plus de 200 pour Grenoble. Et c'est ça justement qui fait que généralement, il y a une différence qui peut être de 2 degrés par rapport à une ville de plaine. Toutefois, et alors ça, c'est assez étonnant, j'avoue que j'ai mis un doute. Donc, Futura Science indique que le taux d'ensoleillement à Aurillac, il est supérieur à celui de Toulouse ou de Biarritz. Ça me paraît, connaissant bien la région, c'est pas l'image qu'on
non,
en a.
Non, c'est pas aberrant, parce que Biarritz, il y a quand même pas mal, comme c'est océanique, donc il
oui,
y a pas
Toulouse,
mal de nuages.
Toulouse,
on parle d'ensoleillement.
On parle d'ensoleillement, mais Toulouse, il y a quand même un ensoleillement qui est hyper important.
Mais c'est parce qu'il y a une communication, une publicité sur Toulouse.
Oui, bien
t'en
sûr.
Sais rien, on connaît pas Aurillac.
Donc allons-y, Aurillac, ensoleillement comme Toulouse. Il faut réfléchir à un slogan, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour redynamiser la ville.
Il fait froid, mais il fait soleil.
Tu
ne peux pas tout avoir, en fait.
Non.
Et c'est quand même à Grenoble. Enfin, tu parles de Grenoble. En fait, si on comprend bien, l'été, c'est invivable parce
qu'il
fait chaud.
Et
l'hiver,
froid,
c'est invivable parce qu'il fait froid.
Ouais.
Et pourtant, il y a énormément de monde qui habite Grenoble.
Parce qu'après, la localisation, si on aime la montagne, c'est vraiment hyper bien situé.
Il y a ça. Et il y a peut-être aussi, quelque part, le corps qui s'habitue à ces conditions. Enfin, on sait très bien que moi qui suis ni chaud ni froid, quand je vais dans un pays, il fait chaud. Au départ, mon corps prend un coup, mais après, il s'habitue.
Oui,
et
oui.
Inversement, quand il fait froid aussi. Donc, c'est peut-être ça, quelque part, plus endurant par l'habitude.
Eh bien, c'est possible.
Nous irons donc à Mout.
À Mout, enfin, si on a envie d'avoir froid, voilà, rendez-vous à Mout.
Rendez-vous à Mout. 06 95 065 026, vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, l'émission de science tous les samedis, entre 12h et 13h pour faire le point sur l'actualité scientifique. On va peut-être parler, je ne sais pas trop dans quelle catégorie nous allons mettre ce prochain article. Est-ce qu'on va parler de biologie, est-ce qu'on va parler d'agriculture, mais on va parler de cette production de tomates qui serait aussi pimentée que le piment rouge lui-même. C'est l'objectif d'une équipe de l'université de Vicoza au Brésil qui détaille son projet dans une revue scientifique qui s'appelle Trends in Plant Science. Et pour cela, ces chercheurs de l'université comptent réveiller des gènes endormis de la tomate pour lui faire fabriquer ce qu'on appelle de la capsaïcinoïde. Je vais y arriver. En fait, c'est le composé chimique à l'origine du goût piquant du piment. Alors, si la tomate pimentée va intéresser certainement les fabricants de sauces et de ketchup, eh bien, l'objectif des chercheurs, elle est tout autre. La capsaïcine présente en effet de nombreux intérêts thérapeutiques. Elle est notamment utilisée comme analgésique et anti-inflammatoire. Certaines études ont montré que le piment pouvait induire une perte de poids, améliorer la digestion et même avoir un effet préventif sur certains cancers, notamment le cancer du poumon et de la prostate. La capsaïcine est également l'ingrédient actif du gaz poivré employé dans les manifestations et les sprays d'autodéfense. Mon Dieu, c'est de l'actualité. En fait, on balance des tomates à mon avis, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cette capsaïcine Il faut savoir que le piment, d'un point de vue botanique, est quand même un lointain cousin séparé de la tomate. Alors, ils ont été séparés il y a 19 millions d'années. Donc, c'est la même famille, mais enfin, c'est quand même des branches assez éloignées. Et ils partagent donc avec la tomate une grande partie de son patrimoine génétique. La tomate possède en réalité tous les gènes nécessaires pour fabriquer ces fameux capsaïcinoïdes. Et ils sont silencieux dans la tomate. C'est ce qu'explique Augustin Zolgon, le principal auteur de l'article. Deux procédés sont envisagés pour activer l'expression de ces gènes. Tout cela reste pour l'instant à l'état de théorie. Les chercheurs reconnaissent qu'ils n'ont aucune idée sur l'efficacité et le niveau de capsaïcinoïdes que l'on pourrait ainsi obtenir. Ces méthodes ont néanmoins fait leurs preuves dans de précédentes études et les chercheurs les jugent prometteuses. Alors, quel est l'intérêt donc de cultiver des tomates modifiées plutôt que d'utiliser simplement du piment ? Eh bien, on nous explique que le piment est très peu productif et difficile à cultiver. Il est aussi très sensible aux conditions climatiques et aux maladies. Et donc, la tomate, à l'inverse, elle pousse rapidement. Sa productivité est 36 fois supérieure à celle du poivron et elle peut être cultivée sous serre toute l'année. Mon Dieu, c'est intéressant. Vous avez bien compris l'intérêt commercial qu'il y avait derrière tout ça. Alors, au-delà, bien sûr, de ces capsaïcinoïdes, eh bien, les chercheurs envisagent de transformer la tomate en mini-fabrique, quelque part, de différentes substances, comme notamment la bixine, qui est un colorant alimentaire orange, le bêta-carotène, qui est un puissant antioxydant. Et donc, on a interrogé un biogénéticien, Hélène Van Denzin, qui travaille à l'Université de Californie, qui envisage, quant à lui, une tomate capable de produire de la vanille. Parce que les capsaïcinoïdes sont des dérivés de la vanilline et ils utilisent donc la même voie de synthèse à l'intérieur de la plante.
D'accord.
Or, on le sait, la vanille naturelle, c'est rare, c'est cher, c'est difficile à produire, ça coûte près de 1000 euros le kilo. Mais donc, du coup, on pourrait produire la vanille dans la tomate. Est-ce que tu arrives à me suivre ?
Complètement, mais...
Et est-ce que les personnes qui sont en train de déjeuner en ce moment, parce qu'il est quand même 12h52,
ça
on est en train
faim.
De déjeuner,
je trouve que ça donne faim.
Se disent, mais alors du coup, on peut manger maintenant des tomates ou alors avoir du ketchup à la vanille ? Il va falloir s'y habituer bientôt, Carole, à avoir ça dans nos assiettes. Ce n'est plus une salade de tomates simple, ça va être une salade de tomates pimentées avec de la vanille, à force. Mmh. Mais
ce pourquoi pas ?
Ce qui est intéressant... Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que quelque part, on ne parle pas d'OGM, notamment dans le cas de cette tomate pimentée. C'est juste des gènes qui existent déjà dans la tomate, mais qui ont été endormis au fil de l'évolution et qu'on va donc essayer de réveiller pour pouvoir produire ces tomates naturellement, entre guillemets, pimentées dans nos assiettes. Ça sera bientôt un futur proche.
Très bien, mais on
je n'ai pas
impatience.
De transition
oui
et je n'en aurai jamais. Après une tomate à la vanille, je n'ai pas de transition. J'ai beau avoir fait plusieurs fois cette émission, là c'est la première fois que je parle d'une tomate qui va produire la vanille, donc je ne sais pas du tout comment rebondir. De quoi vas-tu nous
rien,
parler ?
Rien à voir,
j'avais envie de...
oui, on va passer du coq à l'âne. J'avais envie de citer justement une actualité très courte sur la première capsule Hyperloop.
Mais oui !
On a parlé déjà hein,
dans
cette émission.
Toujours, toujours.
De cette technologie et justement de ces recherches qui pourraient révolutionner le transport humain. Donc
ces fameuses gélules entre guillemets qu'on va mettre dans un tube et qui va nous permettre d'aller
propulser à une vitesse,
prodigieuse et on parle de quelques dizaines de minutes pour aller de je ne sais plus où, j'ai plus de distance précise,
mais je crois que c'est
un Paris-Toulouse ou un Paris-Nice ou je sais pas quoi, enfin pour avoir, c'est pas près d'être construit entre Paris et Nice, mais en tout cas ça donne une idée de ce qui nous attend.
Oui,
et donc il y a
fait.
Eu des essais,
alors,
ça y est concret.
Il y a quand même, on entend des choses, on se demandait où est-ce que auraient lieu certains essais, et notamment on parlait de la France dans le cadre de ces essais-là. Donc ce qu'on nous dit dans le Science et Vie du mois de février, c'est que justement une première capsule fabriquée par la société américaine donc Hyperloop Transportation Technologies de 32 mètres de longueur serait donc à terme censée faire un voyage avec 40 passagers à, là on a une vitesse, 1200 km/h.
Ah oui, c'est énorme.
Ça n'a pas encore été testé, mais très bientôt elle va l'être, sur l'ancienne base militaire de Francazal, près de Toulouse.
Oui, tout
donc,
à fait.
Voilà, donc on est près de Toulouse, dans un tube à pression d'un kilomètre. Alors là, on est sur une petite distance, mais quand même, il a fallu le construire, ce kilomètre, dans lequel elle flottera par sustentation magnétique. Il s'agit notamment d'éprouver le vibranium qui la compose, ça, puisque c'est un matériau donc, qui est 10 fois plus résistant que l'acier. Et donc, ils se rendront compte comme ça avec leurs premiers résultats de la possibilité, j'imagine, d'étendre ces essais et ensuite peut-être de commencer la construction à plus grande échelle. Et l'exemple en fait qu'il donne à la fin de cette actualité, moi, me laisse et à la mi-rêveuse, mi-perplexe, c'est que justement une première ligne Hyperloop pourrait théoriquement ouvrir en 2020 aux Émirats Arabes Unis. Alors on imagine la
logique, 2020
en 2020.
L'année prochaine,
d'accord. Oui. Alors, pourquoi pas ? Ça paraît, la date paraît quand même surréaliste, hein, je trouve.
Oui, ça va peut-être un peu trop vite, mais c'est peut-être un effet d'annonce.
Ça paraît logique peut-être au niveau des Émirats Arabes Unis, parce qu'on sait qu'ils vont avoir les moyens pour faire ce genre de choses. Et donc là, il y a une certaine cohérence, on va dire, par rapport à ce qu'ils peuvent tenter, ce qu'ils peuvent se permettre, etc. Et puis aussi peut-être le fait que chez eux, avec les grands espaces disponibles, c'est peut-être plus simple. Mais en tout cas, voilà, ce serait vraiment une actualité à suivre. Et j'avoue être assez curieuse de connaître la suite qui, visiblement, nous attend pour très bientôt.
On sera informé parce qu'au niveau communication, ils sont assez forts. Donc, on saura précisément ce qui va se passer. Mais bien sûr, parce qu'il va y avoir des essais, il va falloir avoir trouvé des matériaux, une pression qu'il va falloir essayer de contenir. Et puis peut-être le confort aussi à l'intérieur. Enfin, je ne sais pas si...
Aucune idée. Je n'aimerais peut-être pas être dans les premiers passagers. Juste pour...
Ça ne doit pas être simple au départ. Enfin, ça doit quand même... avoir une pression assez importante, mais en tout cas, ils sont en train d'étudier ça. Ça va très vite.
Oui.
C'est une technologie qui va aller très, très vite. Et on pourra bientôt venir à Compiègne avec notre
Hyperloop.
Notre Hyperloop.
Notre ligne Hyperloop.
Eh bien, c'est parfait. Mais écoute, on va bientôt arriver à la fin de cette émission parce qu'il est 12h57. Alors, je voulais très rapidement évoquer cette étude très, très sérieuse de l'université de Padoue, en Italie, bien sûr, qui a été publiée il y a quelques jours dans la revue américaine The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. La conclusion de tout ça, puisqu'on n'a pas le temps de bien détailler l'article, c'est qu'on s'est rendu compte que les poêles à frire, en tout cas ces poêles anti-adhésives, qui sont évidemment pratiques pour cuisiner parce qu'elles ont cette espèce de revêtement qui permet de repousser l'eau, les matières grasses, la poussière, eh bien, il y a de nombreuses études qui ont mis en évidence les effets toxiques en fait, de ces substances sur le système reproducteur masculin. En clair, on a une corrélation entre le produit qu'il y a sur ces poêles à frire et la taille du pénis. Et c'est pas drôle du tout.
C'est-à-dire
qu'on s'est rendu on s'est rendu compte, et notamment dans certaines zones où il y a ces produits qui sont notamment construits dans des usines chimiques et qui vont ensuite déverser ça en fait dans les eaux à côté parce qu'ils vont se débarrasser.
Oui.
Donc il y a une vraie pollution chimique. On s'est rendu compte que la taille du pénis était réduite en fait dans ces zones-là par rapport au reste du pays et notamment dans cette zone d'Italie mais ailleurs également. Et c'est très sérieux parce que derrière, il y a une véritable implication sur ces fameux perturbateurs endocriniens, bien sûr. Entre autres, mais en tout cas les corrélations entre les poils à frire qui permettent, enfin qui ont une véritable incidence sur la réduction, je vais y arriver, de la taille du pénis, c'est pas la rédaction.
Cet article visiblement te
donne un espoir à plat d'hommes en disant mais ce n'est pas grave, parce que ma maman faisait beaucoup cuire dans des poils anti-adhésifs, c'est pour ça que voilà. Mais c'est une vraie problématique importante. Mais ne rigole pas, mais c'est mais d'un point de vue médical, c'est une véritable alerte, en fait.
Oui, de toute façon, non, ce qu'il y a derrière ça, c'est en effet le sujet très sérieux des perturbateurs endocriniens, qui, en effet, peut entraîner ce genre de choses et a des grosses influences sur aussi tout ce qui va être fertilité, etc. À l'heure actuelle. Et moi, je lisais également dans le Science et Vie que, justement, il y a eu des études pour montrer que l'utilisation de cosmétiques, donc pareil, ma maman a utilisé beaucoup de cosmétiques pendant qu'elle était enceinte, avec ces fameux perturbateurs, eh bien, avançait en fait le début de la puberté chez les jeunes filles, ce qui avait apparemment par la suite donc, des conséquences assez néfastes.
C'était voilà, le dernier article de cette émission de Biotine, l'émission de science tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr samedi prochain pour une nouvelle émission. Normalement, la rediffusion le mardi à 10h de cette émission est la possibilité, je l'espère, si j'appuie sur
nous
les bons boutons.
Nous croisons les doigts, il faut là maintenant réussir à appuyer.
Eh bien, nous verrons. Il n'y a qu'un bouton en rouge qui clignote, donc c'est celui-ci que je vais appuyer.
D'accord.
Et donc, Carole, on se retrouve samedi prochain.
Oui, tout à fait. Samedi prochain, je reviens avec grand plaisir sur l'antenne de Graphite.
Et bien du coup, on va laisser une semaine à nos auditeurs pour essayer de trouver la réponse à cette question qui est assez aussi importante et qui nous vient de l'Université de New York. Combien faut-il de coups de langue pour finir une sucette ? La réponse, la semaine prochaine. Et c'est très sérieux, mais on ne peut plus rien dire, Carole, mais à chaque fois, tu rigoles à chaque fois.
Très bien.
Combien de coups de langue pour finir une sucette ? La semaine prochaine, la réponse sur cette antenne. Tout de suite, la suite de vos programmes. Bonne journée. À bientôt,
Carole. Bonne journée. À très vite.